Donc, je voulais commencer évidemment par remercier de nouveau le Collège de France pour cet accueil chaleureux et les professeurs Thomas Romer et Herbert Nier pour cette invitation à participer au colloque d'aujourd'hui. Donc, mon intervention, comme vous voyez à l'écran, s'intitule « Charles Clermont-Ganneau et la stèle de Méchat, l'histoire d'une découverte et d'une reconstruction ». Et par cette première diapositive, je voulais faire un petit clin d'œil, un petit hommage au catalogue de l'exposition que M. Romer a montré tout à l'heure et qui nous a énormément inspirés. Donc, moi, je vais vous montrer le côté français ce soir, aujourd'hui. Et c'est ainsi que moi aussi, je vais vous parler de la presse de l'époque. Et le 11 septembre 1973, cet hebdomadaire Le Monde illustré, extrêmement connu, et principalement axé sur les chroniques d'actualité de l'Empire, l'Empire à l'international, etc., dévoile au grand public l'existence de la stèle de Méchat. Ici, on la voit déjà sous sa forme à la française, on va dire. L'article reflète avec fidélité le retentissement général de cette découverte, et j'ouvre les guillemets. Il y a environ 3 ans, la science archéologique s'enrichit d'une conquête qui mit en rumeur toute l'Europe savante. Il ne s'agit rien de moins, comme l'a reconnu M. Renan, dans le journal des débats, que de la découverte de la plus importante qui ait jamais été faite dans le champ de l'épigraphie orientale. Cette conquête était due à un Français, M. Charles Clermont-Ganneau, alors drogman chancelier de notre consulat à Jérusalem, dont le nom est bien connu par ses habiles et fécondes recherches en Palestine. En effet, la découverte de la stèle de Méchat représente un épisode majeur de l'histoire de l'archéologie en Terre Sainte, tant par l'importance de l'inscription qui apparaît sur sa face principale et qui sera l'objet de nombre de participations dans ce colloque aujourd'hui et demain, que par ce récit captivant et très pittoresque tout de même de sa découverte et de sa postérieure reconstruction. Ce récit qui est presque littéraire et qui est en accord avec une image rêvée de l'archéologie reflète en même temps, comme a très bien dit Réguiné, le contexte géopolitique de la fin du XIXe siècle dans certaines régions de l'Empire ottoman. C'est ici que des puissances européennes, principalement l'Allemagne, l'Angleterre et la France, se livraient à une très intense activité diplomatique afin d'étendre une hégémonie très souvent fluctuante. Et dans ce contexte d'interaction commerciale, diplomatique et scientifique, hommes de science et amateurs d'archéologie parcouraient le territoire en quête de découvertes et de témoignages du passé. C'est ainsi que cette stèle à l'écran, la stèle de Diban, dès l'instant même de sa découverte, comme nous avons pu voir ensemble, devient l'objet de fortes convoitises. Si la savante présentation de Madame Hützinger nous a permis d'appréhender la découverte de la stèle de Méchat à travers le regard du capitaine Warren et surtout de Klein, avec mon intervention d'aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'histoire de cette découverte et aussi de la reconstruction qui a été faite de la stèle au musée du Louvre à travers le témoignage de Charles Simon Clermont-Ganneau. Et ce récit parallèle a été possible grâce aux archives qui sont conservées au Collège de France, au département des Antiquités orientales du Musée du Louvre et notamment et principalement à l'inscription de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et je tiens à signaler également qu'il s'agit d'archives inédites jusqu'à aujourd'hui, comme les vôtres. Donc après cette rapide introduction, je commence mon intervention avec le premier des 4 points qui nous occuperont aujourd'hui, qui est la découverte de la stèle de Méchat selon Ganneau. Et c'est en 1870 que le comte Melchior de Vauguet, diplomate français mais également menteur de Ganneau, affirmait dans la première publication sur la stèle de Méchat, j'ouvre les guillemets, depuis longtemps, M. Ganneau avait appris qu'il existait à Diban, l'ancienne Dibon, à l'orient de la mer Morte, un gros bloc de pierre noire couvert de caractères. Et pourtant, et malgré la pérennité dans l'historiographie française de l'idée que la découverte avait été faite par Clermont-Ganneau, Il semblerait, comme nous venons de voir, que celui-ci ait appris l'existence de la stèle uniquement après le retour exalté, même si discret, de ce jeune Frédéric Klein à Jérusalem. Tel qu'il a été exposé à l'instant, Klein était un missionnaire d'origine alsacienne qui a été décrit comme médecin par la littérature française et qui était installé dans la ville sainte depuis les années 1860. Il était probablement de son métier et de son caractère l'un des rares occidentaux à pouvoir s'aventurer en terre bédouine, là où même les autorités turques ne parvenaient pas à protéger les voyageurs. Et c'est ainsi que le 19 août 1868, accompagné, comme il a été décrit, de son ami et hôte Zatam, fils du puissant cheikh Fidi al-Fayiz, dont je parlerai un petit peu plus tard, Klein atteint la ville de Diban, qui se trouvait à 3 jours de Jérusalem. C'est là, et lors d'une invitation à partager le café, ceci est une évocation, parce qu'il s'agit de photos qui proviennent du service historique de la Défense, datées de 1910, où l'on voit la tribu Adwan, qui est une tribu voisine à Beni Hamaïdé, dans la même région de Moab. Donc, à ce moment-là, de l'invitation à partager le café, c'est à ce moment qu'il apprend l'existence d'une pierre couverte d'inscriptions, et j'ouvre les guillemets, qu'aucun franc n'avait jamais vu auparavant. Klein devient ainsi, et sans conteste, le premier, mais aussi le dernier européen à avoir contemplé la stèle de Diban dans son intégrité. Après son retour à Jérusalem, il signale sa découverte donc à Julius Heinrich Petermann, consul de la Fédération nord-allemande en ville sainte. Petermann était aussi spécialiste en langue orientale et il est donc tout de suite attiré par ce récit. Et comme vous savez, il a décidé d'acquérir ce monument après des multiples négociations et en cherchant un financement pour le compte du musée de Berlin. Et malgré ces efforts réalisés par la délégation prussienne pour garder confidentielle la découverte de la pierre, la nouvelle, malheureusement, se répand dans les milieux diplomatiques et scientifiques occidentaux extrêmement vite. Et c'est à ce moment-là que de nouveaux personnages font irruption dans l'histoire de la stèle de Mecha. Le capitaine Warren et Charles Clermont-Ganneau, qui était alors drogman chancelier, dans d'autres mots, il était traducteur et apprenti diplomate, au consulat français à Jérusalem. Tous les deux étaient au poste entre 1867 et 1870 à Jérusalem. Et si le capitaine Warren joua un rôle très important dans l'histoire de la stèle de Mecha quelques années plus tard, il n'interféra pas dans ses premières négociations pour son acquisition. Et moi, je pense que c'est très probablement pour des questions diplomatiques. A contrario, Clermont-Ganneau, diplomate, mais également un enthousiaste et très jeune, à peine 23 ans, archéologue et épigraphiste, décide d'intervenir. Dans un premier temps, ce jeune archéologue tenta apparemment de s'entretenir avec Petermann, mais ce dernier niait avoir des informations sur la stèle, puisqu'il voulait la garder en secret, et à ce moment-là, Ganneau il considéra qu'il était libre d'agir à sa guise. Et si le capitaine, donc ici présent, c'est ainsi que quelques mois plus tard, en 1869, et avec la volonté ferme d'attester l'importance de cette inscription encore énigmatique pour Clermont-Ganneau, qu'il décide d'envoyer deux émissaires à Diban, dont je vais vous parler bien plus longuement. Vous voyez ici cette carte, elle appartient au fonds Clermont-Ganneau qui est conservé à l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et on n'arrive pas très bien à lire, mais je vais vous lire ce qui est marqué juste ici au pied. Alors ici, voilà, au pied de la carte, nous voyons des annotations de la main de Clermont-Ganneau, carte de Moab et des régions adjacentes pour servir à l'intelligence de la stèle de Mecha. Un petit peu plus haut, ici. Il écrit, écrire Dibon, qui se trouve ici, avec des caractères aussi gros que Jérusalem. Vous voyez l'importance que pour lui commence à avoir cette ville de Dibon. Donc, parti de Jérusalem, évidemment pas en ligne droite, mais en faisant un détour, j'espère, autour de la mer Morte. Le premier, Selim El-Karim, réalise deux esquisses de la stèle, tandis que le deuxième, appelé Yacoub Caravaca, accompagné de deux cavaliers, c'est un petit détail important, on verra après pourquoi, fut chargé de réaliser un estampage, dans d'autres mots, une copie sur papier mouillé d'une surface d'une pierre inscrite. Et le fonds d'archives inédites conservé de nouveau à l'Académie des inscriptions et belles lettres nous a permis d'attester cet événement, l'événement de l'envoi de ces émissaires à Liban, qui a été sans cesse repris par la littérature française. Et c'est ici qu'on peut lire sur cette liste, qui est une liste de dépenses que Clermont-Ganneau intitule, je vais lire sur mon écran, « Inscription phénicienne de Liban », qu'on arrive à lire « Dépenses pour le cheikh du Beni Sakhir, environ 40 francs, escorte de deux cavaliers bédouins du Adonan pour 6 jours, 12 médidi, à Jacques, frais de voyage, 2 chevaux avec bakchich par jour pour de la nourriture. » Voilà. Donc, on voit grâce à cette archive, on peut constater l'historiosité de cet envoi des deux émissaires à la région de Liban. Malheureusement, nous ne connaissons pas le périple d'El-Khari jusqu'à Liban, mais une fois sur place, il parvint à accéder à la stèle et à exécuter deux esquisses que voici. Directement dessinée à l'encre noire diluée, elle présentait une transcription partielle de la stèle, ainsi qu'un croquis schématique écoté de la pierre. Vous voyez ici la transcription partielle, elle n'est pas toute entière, et en bas, des croquis schématiques de la pierre et toujours coté. Malgré les quelques inexactitudes de ces esquisses remarquées par Clermont-Ganneau, tout de même, la fidélité de ce rendu lui a permis de remarquer l'importance de ce texte écrit, j'ouvre les guillemets, dans des caractères sémitiques très anciens. Sur la première esquisse de Selim El-Khali, il reproduit uniquement une partie du texte allant de la ligne 13, fin de la ligne 13, jusqu'à la ligne 20 de la stèle de Méchin. Il les copia, comme vous voyez, à la suite, sans retranscrire la succession de lignes inscrites. Il faut aussi savoir que El-Khari était un commerçant et un artisan arabe habitant Jérusalem, mais il vendait des bibelots à la communauté grecque. Donc, il écrivait le grec et il maîtrisait parfaitement aussi les chiffres arabes. Et comme vous voyez, il est bien possible qu'il ait interprété les inscriptions sur la stèle de Mécha comme une inscription d'une langue occidentale, puisqu'il les a transcrits de gauche à droite. Même si quelques omissions furent remarquées par Ganneau sur cette copie, et je cite à partir de la publication de 1887, j'ouvre les guillemets, tout le long du côté gauche, il devait y avoir un obstacle matériel empêchant de discerner les caractères sur l'original, soit qu'il fût fruste, soit qu'il fût empâté de terre ou de mortier. Je, Clermont-Ganneau, serais porté à croire que la stèle, quand elle a été copiée et plus tard estampée, était couchée à terre sur le côté gauche. Et c'est effectivement dans cette même position que Selim El-Khari la dessina, même si Klein, dans son récit, parle d'une pierre exposée au soleil. Donc, on sait que cette pierre, entre le moment où Klein est passé et Selim a fait son dessin, il a été transporté. Un petit détail est pourtant à souligner sur le croquis de El-Khari, c'est cette partie, ce cercle brisé aux angles qu'il représente sur son croquis ne paraît pas tout à fait convenir à la forme cintrée de la stèle elle-même. Si on parle maintenant de la deuxième esquisse, celle-ci, elle reproduit une partie encore plus réduite de l'inscription de la stèle, et par ailleurs, elle est elle-même des dimensions plus réduites. Et ici, le dessin de la stèle est également coté, et accompagné par une petite annotation en arabe, et je remercie Michel Al-Magdissi des nombreuses traductions qu'il a fait pour moi. Merci Michel. Et que je vous présente à l'écran, ceci est une ligne unique de l'ensemble des 40 lignes. Il, le monolithe, se trouve à Herbet Dibiyan. Vous voyez que ce n'est pas très lisible. Il a une longueur de 10 par 5 et une largeur de 10 par 3 coudes. Ce commentaire a très vraisemblablement été écrit par El-Khari, tout comme l'esquisse précédente, mais Clermont-Ganneau le soupçonna d'avoir volontairement effacé le nom de la ville. Il note ainsi clairement sur l'une de ses publications sur le monument, j'ouvre les guillemets, « Il semble avoir été effacé intentionnellement avec le pouce. » Cette deuxième esquisse, de nouveau, je continue à parler d'elle, et elle nous donne énormément d'informations, fut décrite par Clermont-Ganneau comme étant réalisée par la même main que la première, mais ce second croquis a été, comme je le prouverai, fait après coup et en prenant le premier croquis comme modèle. Vous voyez ici le premier croquis. Il est vrai que la reproduction très précise de quatre premières lignes et demie, ça s'arrête ici, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer... juste ici, un petit tracé au crayon. Donc, il copie les quatre premières lignes et demie. Ainsi que, vous voyez aussi le croquis dans une position semblable, mais bizarrement, il représente ce côté gauche, inférieur gauche fragmentaire, nous permet d'affirmer effectivement cette hypothèse que ce croquis s'est inspiré du premier. Nous ignorons les raisons qui ont poussé à El-Khari à réaliser une copie de son propre croquis, mais Clermont-Ganneau semble avoir sa propre idée. En fait, quelques années plus tard, il accuse son ancien émissaire de fraude dans la fabrication de fausses céramiques moabites portant des inscriptions. Il dresse ainsi un parallèle entre ces céramiques moabites et les croquis réalisés par El-Khari. Quand il affirme dans sa publication sur l'affaire qui apparaît en bas sur l'écran, j'ouvre les guillemets, pour résoudre la question de l'authenticité des inscriptions que portent les céramiques moabites, il est bon d'en comparer les caractères avec ceux qui sont tracés sur la copie de El-Khari. Afin d'approfondir nos connaissances sur cette question et afin de connaître aussi un petit peu mieux l'estampage et les croquis, des analyses d'imagerie numérique ont été sollicitées auprès du Centre de recherche et restauration des musées de France, aussi connu comme site des E2RMF. Et sur la deuxième esquisse, cette photographie en lumière rasante nous permet de constater tout simplement la présence de deux encres de nature très diverses, ce qui nous permet de penser qu'elles ont été exécutées à deux moments différents. Parce qu'on imagine mal un émissaire partant sur un site à Liban avec quatre pots d'encre. Donc on imagine qu'il a fait ça, on ne sait pas très bien où. Donc on observe une réaction bien différentielle des encres à l'abrasion. À l'abrasion tout simplement due à l'usage. Les creux, comme vous voyez à gauche, sont visibles sur l'encre employée dans la transcription de l'inscription. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous distinguez assez bien, il y a des petits creux. Mais ceci n'apparaît pas sur l'encre employée sur la notation écrite en arabe ainsi que sur le croquis. Ce qui nous a permis de voir que cette partie-là et celle-ci étaient faites avec deux encres différentes. Cette hypothèse est par ailleurs confirmée par d'autres analyses, la photographie par fluorescence UV. Vous savez ici ce même croquis, le deuxième, face et revers. Donc, alors que sur la face principale, on voit encore le croquis et la notation en arabe, sur le revers, elle disparaît. Donc ça a été effectivement réalisé avec deux encres bien différentes. Enfin, quelques détails aussi grâce aux analyses réalisées au site du site de E2RMF. Les deux esquisses avaient été pliées respectivement en 12 et 8 parties afin de faciliter leur transport, les mettre dans la poche tout simplement. Et au dos de la première d'entre elles, on distingue deux fois la mention « this book » en anglais. Et celle-ci est accompagnée sur le pli inférieur de ce qui ressemble à un exercice de calligraphie en arabe fait par une main qui ne maîtrisait pas du tout la langue arabe. S'agit-il d'une simple réutilisation de cette feuille, d'un échange linguistique dans un moment de détente? Ça nous échappe complètement. Mais on distingue également la trace émouvante de quelques empreintes digitales qui ont été discrètement figées sur le papier par l'encre. Donc, malgré les inexactitudes déjà mentionnées par Gano dans cette transcription, ces deux esquisses permirent à l'archéologue de penser qu'il était sur le point de faire une découverte épigraphique majeure, et ce qui était le cas. Et il décida alors de dépêcher un deuxième émissaire sur le site. C'est ainsi qu'en décembre 1869, et encore une fois, j'espère qu'il a fait le détour, Yacoub Caravaca fut envoyé à Liban, escorté par deux cavaliers de la tribu des cheikhs Kablan. Il était, lui, chargé de réaliser un estampage de la stèle, technique que Clermont Gano dit lui avoir appris avant son départ. Juste pour rappel, un estampage est tout simplement un moulage réalisé sur une inscription sur une pierre. Une fois sur place, et après des pourparlers qui se sont avérés assez difficiles avec les Beni Hamaïdé, qui étaient la tribu installée à proximité du site de Liban, il obtint l'autorisation de réaliser l'estampage que voici. Et alors que Caravaca attendait le séchage, parce qu'un estampage, d'abord, il est mouillé, puis il est inséré à l'aide d'une brosse, puis il faut le laisser avec un temps de séchage. Donc, alors que Caravaca attendait le séchage du papier, une dispute éclata entre les Bédouins qui assistaient à l'événement. Et Réguiné, vous m'avez donné peut-être un indice dans cette histoire idée maléfique qui serait enlevée si on réalisait un estampage. Peut-être que ça relevait de ça. En tout cas, on ne connaît pas exactement les raisons de cette querelle, mais elle fut d'une très grande violence, à tel point que le jeune Yacoub Caravaca fut gravement blessé à la jambe d'un coup de lance. Et cet estampage aurait été perdu à jamais, et j'ouvre les guillemets, sans la présence d'esprit d'un des compagnons de Yacoub, Cheikh Djemil, retenez le nom parce qu'on va en parler après, qui, au milieu de la mêlée, se jeta dans le trou au fond duquel se trouva la pierre, arracha le papier et en jeta les lambeaux, les parties, dans un pan de son abaye, de son manteau. L'estampage, qui était encore mouillé, avait été arraché, détruit de la surface de la stèle, ce qui provoqua, comme vous pouvez observer à l'écran et que vous observerez aussi dans l'exposition adjacente, il avait des multiples déchirures et il était complètement froissé, puisque le papier avait été déchiré, mis en boule et mis dans la poche. Pourtant, malgré cet état de dégradation très important, une fois à Jérusalem, Clermont Gano, extrêmement dynamique, se mit rapidement à travailler sur son inscription. On a une description du conte de Melchior de Vogüé lors d'un passage à Jérusalem. Il nous raconte qu'il voyait Clermont Gano avec les sept morceaux de cet estampage en train d'essayer de le mettre tous ensemble. Et c'est ainsi que la richesse de la stèle Mécha lui fut entièrement dévoilée, parce que malgré des dégradations, Clermont Gano raconte qu'il travaillait sur l'estampage par transparence, en mettant une source de lumière juste en dessous de l'estampage pour pouvoir lire de nouveau les inscriptions qui étaient conservées. Je vous montre ici la photo réalisée au musée du Louvre par transparence. On aura également l'occasion de contempler l'estampage de la stèle de Mécha dans cet état, puisque les ateliers du musée du Louvre ont fait une vitrine qui nous permet d'exposer l'estampage avec un éclairage en dessous. C'est ainsi que nous rentrons ensemble dans la deuxième partie de mon intervention qui porte sur la triste destruction de la stèle de Mécha. Si la pierre a été découverte en août 1868, c'est un an et demi plus tard, en novembre 1869, que Clermont Gano décide d'entrer dans la compétition pour son acquisition. Et c'est ce contrat à l'écran, qui est de nouveau conservé à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui fut établi entre Clermont Gano, comme vous voyez ici, en bas à gauche, on voit sa signature, très affirmée également, Et ce contrat est établi donc entre Clermont Gano et le cheikh Findi Al-Fayiz, dont vous voyez ici le tampon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il s'agit curieusement du même cheikh dont le fils accompagnait Frédéric Klein le jour de la découverte de la stèle de Mécha. Donc, ce contrat a été rédigé le 8 novembre 1869. De nouveau, merci Michel pour ta traduction. Il fut signé en présence de 4 témoins. Vous voyez à l'écran Atiya Abou Mustapha et Mohamed Ibrahim, dont nous ignorons la fonction. Il s'agissait sûrement des gens illettrés, parce qu'ils signent avec leurs doigts. Ainsi que de, et ça va vous rappeler quelque chose, j'espère, Mathias et de Yacoub Caravaca, ce dernier étant l'auteur de l'estampage de la stèle. Je veux vous dire que j'étais très contente de retrouver Caravaca ici, parce qu'il avait été gravement blessé, j'étais très inquiète de son sort, donc on sait qu'il était encore vivant. La somme engagée, décrit le contrat, fut d'un total de 400 medjidi, 200 à l'aller et 200 au retour. Et bien plus élevé que les petits Napoléon offerts par Klein quelques mois auparavant. Et de plus, il s'avait convenu d'une garantie sur la jument de propriété du cheikh, mais aussi, cette fois-ci, ils avaient aussi convenu de transport jusqu'à Jérusalem. Donc la tribu voisine n'avait plus rien à dire, tout était dans le contrat. En cas de non-obtention de la stèle, la somme initiale des 200 medjidi devait être rendue à Clermont-Ganneau. Et pourtant, au bout de 2 semaines, l'argent lui fut rendu, car la pierre avait été bel et bien détruite. Clermont-Ganneau, anéanti, qualifiera cet acte de sauvagerie incompréhensible. Dans ce croquis schématique des ruines des Diban, conservé également à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, on distingue 2 monticules de son ensemble principaux étendus sur 2 collines, encerclées par 2 niveaux successifs de murailles en rouge. Et le dessin montre également l'emplacement de la stèle de Mécha lors de sa découverte, ainsi que l'emplacement de la stèle de Mécha une fois brisée. Donc effectivement, elle avait bel et bien été déplacée. D'ailleurs, dans le contrat que je viens de vous montrer, il est bien décrit et spécifié que le transport de la stèle doit se faire de la stèle elle-même, plus d'un grand fragment qui se trouvait à côté. Donc elle avait été brisée entre-temps. De fait, le gouvernement prussien, en fait, las des vicissitudes pour l'acquisition de la stèle, avait décidé de demander de l'aide aux autorités ottomanes. Et donc, puisque les populations bédouines subissaient des incursions continuelles de l'armée ottomane, ils ont préféré détruire la pierre plutôt que de la céder, de céder à la volonté turque. Donc, effectivement, on parle beaucoup d'un trésor caché ou de la cupidité des bédouins. Mais il s'agirait plutôt de problèmes, des tensions internes, ou peut-être de tout. Peut-être on parle un peu de tout. Il y a un petit mélange dans la raison de la destruction. Dans tous les cas, la stèle fut chauffée au feu, épisode dont vous verrez, elle garde encore les traces, puis encore brûlante, elle fut aspergée d'eau froide. La forte différence de température fit éclater la stèle en de multiples fragments, lesquels, selon le témoignage de Peterman, furent distribués parmi les familles bédouines. Celles-ci les enterrèrent à proximité des champs comme un acte propitiatoire favorisant la fertilité des sols. C'est ainsi que la stèle de Mécha, découverte en 1868, fut détruite à peine 1 an et demi après, en 1869, résultat très probablement d'une convoitise passionnée qui a été mêlée à des offres financières démesurées et avec des intérêts diplomatiques et stratégiques des puissances européennes dans un territoire de l'Empire ottoman encore très méconnu. À Jérusalem, les différents acteurs accueillent avec grande consternation la nouvelle de la destruction de la stèle. Et en janvier 1870, Clermont-Ganneau, encore incrédule mais toujours dynamique, décide d'envoyer un dernier émissaire à Diban. Et c'est ainsi que de nouveau ce cheikh Djemil, qui était le 2e cavalier qui accompagna Caravaca le jour de la réalisation de l'estampage, et j'ouvre les guillemets, armé d'une brosse et de papier à estampage, revient au bout de quelques jours avec, incroyable, un moulage des 2 des grands fragments résultant de la destruction du monument. Donc la pierre avait été détruite, mais on conservait des fragments suffisamment importants comme pour réaliser des estampages parlants. Débute ainsi le 3e chapitre consacré à Clermont-Ganneau, celui de la reconstruction de la stèle de Mécha au musée du Louvre. un riche ensemble d'estampages réalisés sur les fragments, cette fois-ci, de la stèle après sa destruction, ont été identifiés dans l'Aïbel. Parmi eux, deux estampages de facture assez homogène pour être mis en relation avec ceux apportés par Cheikh Jemil. D'un côté, leur grande dimension, leur correspondance précise avec les fragments les mieux conservés de la stèle, et le fait aussi qu'on puisse observer des traces encore de terre et de poussière, nous permettent de lancer cette hypothèse. Dans tous les cas, le témoignage apporté par ces estampages fut suffisant pour que Clermont Ganneau se lance dans la recherche enfiévrée des fragments résultant de la destruction. J'ouvre les guillemets, au prix de 1000 fatigues, de démarches actives et en sacrifiant son maigre traitement. En fait, il a épuisé son salaire. Il achetait des fragments, il les mettait à la banque, en fait, il obtenait de l'argent en échange pour racheter d'autres fragments. Et c'est au cours de l'année 1870, et je tiens à remercier également ma collègue Caroline Florimont pour les dessins qui illustrent la présentation d'aujourd'hui. Les négociations sur l'achat des fragments de la pierre originelle arrivent à leur terme et Ganneau parvient à se procurer, on va faire des calculs maintenant, il faut être réveillé parce que les calculs commencent, il parvient à se procurer les deux principaux d'entre eux ainsi que 36 petits fragments. Donc Clermont Ganneau récupère 38 fragments. 18 autres furent acquis par le capitaine Warren qui revient sur scène. Et un dernier fragment fut obtenu par Constantin Schlottmann de la Société orientale germanique. L'ensemble, le total des fragments retrouvés, 57, permettait toutefois de restituer les deux tiers de la surface connue de la stèle. Et en ce qui concerne le texte de l'inscription que vous voyez à l'écran, et selon les calculs soigneux de Ganneau, sur un total estimé à environ un millier de signes, les fragments de l'archéologue français contenaient 613 caractères, ceux de Warren 59, ceux de Schlommann 7, c'est-à-dire un ensemble de 883 sur 1000, ce qui n'est pas mal. Et c'est à ce moment précis de la recherche autour de la stèle de Méchat que l'opinion publique française et notamment les cercles scientifiques et archéologiques s'emparent de l'affaire de la stèle de Méchat. C'est pour cette raison principalement qu'en 1873, le musée du Louvre acquit l'ensemble des fragments achetés par Clermont Ganneau, c'est-à-dire pour l'instant 38. Juste un petit détail de cet achat, la somme initialement demandée de 27 000 francs par Ganneau, qui fut estimée un petit peu trop élevée, fut remplacée par désir de l'archéologue lui-même par une rente annuelle attribuée à sa mère. Et voici un zoom de la reproduction de l'inventaire général du département des antiquités orientales du musée du Louvre où l'on peut lire AO 5066, stèle de Méchat, inscription moabite de 34 lignes, d'Iban, acquis en 1873 par l'intermédiaire de Clermont Ganneau. Avec la vente au musée du Louvre des fragments, Clermont Ganneau décide de céder simultanément les croquis et l'estampage du monument. Furent inventoriés sous les numéros AO-5019 et AO-5020 respectivement. Et juste attirer votre attention sur un élément important, l'entrée de ces archives dans l'inventaire général du patrimoine, il s'agit d'archives, témoigne du statut d'œuvre originale qu'ils avaient acquis après la destruction de la stèle. Une année plus tard, les membres de la société anglaise du Palestine Exploration Fund, et en particulier le capitaine Warren, apprenant l'entrée au Louvre de la plus grande partie du monument, fait don des fragments, gracieusement, au musée du Louvre. On peut lire ici ensemble, je vois, des fragments donnés par le capitaine Warren. Et enfin, même si 18 ans plus tard, en 1891, le Louvre reçoit un petit morceau envoyé par la société orientale allemande au nom de Mademoiselle Anna Schlottmann, comme legs du professeur Schlottmann, son père. C'est ainsi qu'avec l'arrivée au Louvre du croquis. Alors, du croquis et de l'estampage des 38 fragments de Clermont Ganneau, des 18 fragments de Warren et de tout dernier de Schlottmann, débute au musée du Louvre une importante phase de restauration et une phase de restauration sans précédent. Celle-ci sera couronnée par la restauration de l'estampage ainsi que par la reconstruction de la stèle de Mécha elle-même. Et je vais dédier tout d'abord quelques instants à la restauration de l'estampage de la stèle. Même si le travail fut initié à Jérusalem, comme il avait décrit Melchior de Vauruet, quand il décrivait Carmont-Ganon en train de mettre tous ces fragments à côté les uns des autres, ce fut au musée du Louvre que les fragments furent définitivement réunis. Pourtant, le travail présentait des grandes difficultés matérielles d'exécution. Carmont-Ganon, dans sa publication de 1887, La stèle de Mécha, il décrit « On ne pouvait pas éviter des défauts de coïncidence sur les bords déchirés de ces lambeaux, fripés, séchés isolément et n'ayant plus les mêmes superficies proportionnelles. De plus, les fragments s'étant déformés en séchant, les caractères étaient à peine visibles. Ils étaient uniquement perceptibles par transparence en interposant la feuille entre l'œil et une bougie ou bien un rayon de soleil. » Également, des analyses de réflectographie infrarouge nous permettent de remarquer quelques annotations de la main de Carmont-Ganon lui-même. On voit ici des chiffres de 1 à 4, mais elles vont de 1 à 9, et elles soulignent les différentes lignes de l'inscription. Et à leur propos, Ganon écrit en 1887 « L'indication au crayon que j'en avais tracé sur les bords de l'estampage est un simple mémento de restitution. » Parce que quelqu'un l'accuse de fausserie également de l'estampage, donc il doit se défendre. Des annotations de la main de l'archéologue sont également visibles sur l'esquisse réalisée par Selim El-Khari quelques années plus tôt. Et je mets ici également l'image de l'original pour que vous voyez à quel point ces analyses par réflectographie font ressortir le crayon. Donc sur le papier, il est possible de deviner de traits de crayon, des tracés de séparation entre les lignes du texte, etc., ainsi que des réflexions annotées. On voit ici que Carmont-Ganon écrit ici en haut, troisième ligne de mon fragment, ici, deuxième ligne de mon fragment, commencement de la ligne de mon fragment, ici. Et dans la partie inférieure de l'esquisse, nous pouvons également distinguer des essais de traduction, les tout premiers que l'on connaisse de l'estampage, réalisés par Ganon lui-même. Ils sont très mêlés aux translittérations du texte en hébreu moderne. Et on lit ici, dans cette partie inférieure, je vais lire sur mon papier, sinon j'arrive pas, « J'ai construit ici Ayahas, ville de la Moabite. » Un petit peu plus tard, on lit « se retrouve plus bas après » et « répéter deux fois ». En ce qui concerne la reconstruction de la stèle elle-même, il fut d'abord envisagé de laisser le monument en état, en fait en des multiples morceaux, et le présenter autant qu'un puzzle pour le public. Mais c'est justement grâce aux questionnements et aux hésitations apparues lors de cette restauration que la position exacte de certains morceaux peut être assurée. C'est ainsi que la reconstruction de la stèle de Mécha, que vous voyez à l'écran, débute au musée du Louvre en 1875. Conduite par Ganon, elle fut possible, et je tiens à le préciser, grâce à la confrontation permanente avec les esquisses et l'estampage, réalisée avant la destruction de la pierre, mais également grâce à la confrontation permanente des estampages réalisés après sa destruction. C'est Ganon lui-même qui décrit avec grand détail ce travail de reconstruction dans sa publication de 1875. On a dû commencer par réunir tous les fragments, petits et grands, qui se touchaient, en procédant de bas en haut et en tenant compte non seulement du contact des lettres, mais du contact des morceaux eux-mêmes, dont quelques-uns étaient fort épais. Puis, après avoir encastré ce premier groupe dans une pierre de taille et l'avoir noyé dans du plâtre, l'estampage a été, pour ainsi dire, superposé à cette page. On voit à quel point l'estampage est essentiel. Cette page, moitié plâtrée, moitié basalte, et alors les morceaux isolés ont été insérés à leur place. Après, les lacunes ont été remplies par la transcription de l'estampage. Vous pouvez voir sur ici et aussi sur le moulage qui est exposé juste à côté, dont les lettres ont été reproduites avec soin, sans cependant viser au facsimilé ou au trompe-l'œil. Cependant, malgré une restauration savante et très 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 méticuleuse, une vingtaine de fragments ne trouvèrent pas de place précises et ne purent pas être intégrées dans la restauration de la pierre. Il s'agit des fragments non restitués qui furent inventoriés sous le numéro AO5060. Publié en 1879, ils ont à certaines occasions été également exposés à côté du monument. Et dans cette lettre de René Dussault à André Parot, écrite en 1951, Dussault et Parot, conservateurs au musée du Louvre, et il s'agit également d'une archive conservée au département des Antiquités orientales, on lit. Cher ami, mes souvenirs sont obscurs et lointains, et d'ailleurs beaucoup plus récents que la reconstruction de la stèle. Je me souviens cependant d'une boîte verte sans couvercle, contenant quelques fragments de basalte appartenant à la stèle de Mécha, mais sans trace d'écriture. Toutefois, malgré ce témoignage, parmi ces fragments, pour la plupart effectivement un épigraphique, sans inscription et de petite taille, l'un d'eux porte un signe inscrit, un mime qui est très visible. Gano proposa de le localiser dans la ligne 28, même s'il n'a jamais intégré à la restitution. Également, un deuxième fragment portant des traces inscrites reste encore à déchiffrer. Vous pouvez les observer dans la vitrine à côté de la stèle. De fait, un élément qui peut attirer notre attention, la correspondance en fait, entre le nombre de fragments de non restitués à l'intérieur de la stèle et ceux légués par Warren et par Schlottmann, 18 et 1 respectivement, c'est-à-dire 19 et 19, pourrait formaliser une association trop directe entre les deux ensembles. Mais pourtant, dans les comptes rendus de l'Académie de 1875, nous pouvons lire « La Société palestinienne de Londres a bien voulu offrir à titre gratuit à notre musée des Antiques des fragments de la stèle qui étaient tombés en sa possession. Ces fragments sont entrés très utilement dans la reconstitution du précieux monument. » Et là, maintenant, c'est sûr, vous posez la question de qu'est-ce qui s'est passé avec le fragment de Schlottmann, est-ce qu'il a été intégré dans la restitution ou pas. Donc, c'est en 1891, grâce à cette héliogravure publiée dans le Héron de Villefosse, Notice des monuments de la Palestine, que c'est grâce à cette héliogravure que le fragment a pu être identifié. Et il a bel et bien été intégré à la restitution. Parce qu'ici, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, ici, il est absent, ici, il y apparaît. En fait, la photo a été prise une quinzaine d'années avant le legs de Schlottmann de son fragment au musée du Louvre. Donc c'est pour ça qu'il n'apparaissait pas dans la restitution. Et ce qu'on ignore, c'est comment et à quelle date ce petit fragment a été restauré, a été inclus dans la restitution. Et par ailleurs, dans cette lettre de Gano, de Schlottmann à Gano, pardon, en 88, le professeur évoque ce petit fragment qui est en sa possession et il enjoint l'estampage. Il est également exposé dans les salles juste à côté, mais ce petit estampage coïncide parfaitement avec le fragment manquant. Depuis, malgré l'existence de ces petits fragments qui ont été intégrés, depuis, des rares fragments de blocs inscrits ont également été trouvés à Diban. Mais ils n'ont jamais été encore associés avec certitude à la stèle. En fait, c'est le cas décrit dans cette lettre conservée au musée du Louvre, dans laquelle, qui a été envoyée par le père Roland Devaux en 51, et dans laquelle on arrive à lire « Mais voici plus sérieux encore ». L'école américaine fait à Diban une petite fouille qui ne leur donne pas beaucoup de satisfaction jusqu'ici. Mais ils ont ramassé par hasard à la surface du tel un éclat de basalte qui porte trois lettres phéniciennes et l'amorce de trois autres. Il semble que le fragment provienne de la stèle de Mécha, mais il ne loge dans aucune des restitutions proposées pour les parties manquantes. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de suite, ou en tout cas de traces de suite, de cette lettre au musée du Louvre. Et par ailleurs, ce sont l'attente et l'espoir de la découverte de nouveaux fragments appartenant à la stèle de Mécha qui ont vraisemblablement conduit Clermont-Ganneau à repousser sans cesse la publication finale sur la stèle de Mécha. Publication que néanmoins, il continua à compléter tout le long de sa vie. De nouveau, sur cette lettre de Dussault à Parot, nous pouvons lire « mon regretté maître a eu le tort, et on le lui a vivement reproché, de ne pas donner l'édition définitive de l'inscription de mes chats. Il y pensait cependant, mais il était toujours prêt pour la dernière découverte épigraphique. Clermont-Ganneau lui-même affirme en 87 « Une enquête menée adroitement sur les lieux ne saurait manquer de faire sortir de leur cachette nombre d'épaves, évidemment des fragments de la stèle, plus ou moins importantes de ce lamentable naufrage. Il serait vivement à souhaiter, dans l'intérêt de la science, que cette enquête, qui certes aurait ses difficultés et même ses périls, fut entreprise un jour. » Et c'est avec ces mots d'espoir que je passe très très rapidement au dernier point, avec quelques phrases et à peine deux images. En fait, c'est en 1875, à peine quelques mois après le début de sa restauration, que la stèle est exposée au musée du Louvre et qui fait le plaisir du public. On lit dans les comptes rendus de l'Académie, Monsieur Ravessant, qui était conservateur des antiques, annonce à l'Académie que la fameuse stèle de Mécha, roi de Moab, 9 siècles avant Jésus-Christ, rapportée de Palestine par Clermont-Ganneau et acquise par le musée du Louvre, est maintenant exposée dans une des salles du département des antiques consacrée aux monuments judaïques. En fait, il s'agit de l'image que vous voyez à l'écran. Elle occupa une place centrale dans cette salle judaïque pendant presque 50 ans, comme nous le montre cette photographie de 1911. Et c'est cette image qui est un des rares documents graphiques de cette présentation. Après une lecture attentive, elle nous permet d'observer que la stèle était à cette période accompagnée de l'estampage et des esquisses réalisées par Selim El Khari et Yacoub Caravaca en 1868. Selon le désir exprimé par Ganneau lui-même, on a placé à côté de cette stèle aujourd'hui mutilée l'estampage qui en avait été fait lorsqu'elle était encore intacte parmi les ruines des Diban. Depuis les années 1950, et pour des questions de conservation, ces archives n'accompagnent plus la stèle de Mécha dans les salles du Louvre. Conservées dans les réserves du musée, elles sont exceptionnellement présentées à l'occasion de l'exposition « La stèle de Mécha et la Bible, quand une pierre raconte l'histoire ». Et nous sommes très heureux de pouvoir recréer, à l'occasion du 150e anniversaire de la découverte de la stèle de Mécha, la muséographie de 1875, où les esquisses et estampages sont de nouveau réunis. Merci beaucoup et très bonne visite.